Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui nous rendent visite pour la première fois, mais à ceux qui ont l'habitude de venir aussi. Oui, c'est une joie de se réunir autour de la parole de l'Éternel, cette parole qui fait du bien, cette parole qui nous rassure, cette parole qui nous fait avancer. Alors ce matin, je vais vous parler d'eau, je vais vous parler de mer, je vais vous parler de lac. Je veux peut-être même vous apprendre à marcher sur l'eau. Je ne sais pas si j'en ai le pouvoir ni la capacité. Mais ce sera autour de cela que le Seigneur veut nous parler ce matin. Nous allons lire la parole dans le Nouveau Testament, l'Évangile de Matthieu, chapitre 14. À partir du verset 22. Mais avant cela, je vous invite à prier. Père éternel, tu as dit, tu as les paroles de la vie éternelle. À qui d'autre irions-nous? À personne qu'à toi, Seigneur. Je voudrais, Seigneur, que tu nous saisisses ce matin par ta parole, qu'elle nous parle, qu'elle me parle, Seigneur, et qu'elle transforme nos cœurs. Que Seigneur, nous puissions partir d'ici, oui, transformés par ce que tu as à nous dire. Gloire à toi. Amen. Donc, Matthieu chapitre 14, nous lirons à partir du verset 22. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans le bateau pour qu'il le précède de l'autre côté du lac pendant qu'il renverrait la foule. Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là, tout seul. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, le bateau luttait contre les vagues car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. « C'est un fantôme !» dirent-ils. Et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. « Rassurez-vous ! Leur dit-il, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » « Viens, » lui dit Jésus. Aussitôt, Pierre descendit du bateau et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur et, comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien petite, » lui dit-il, « pourquoi as-tu douté ?» Puis, ils montèrent tous deux dans le bateau. Le vent tomba. Les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Un certain été 1969, je pense que je venais juste de naître, l'homme a marché sur la lune. Et cela a été considéré véritablement comme un exploit scientifique sans précédent. Presque un miracle pour l'humanité. Un rêve qui est devenu réalité au prix de beaucoup de persévérance de la part des hommes et des femmes qui ont consacré toute leur vie pratiquement à la réalisation de cette mission. Mais ce passage de Matthieu, que nous venons de lire, nous rapporte un autre exploit, réalisé lui aussi par un homme. Au-delà même du miracle de Jésus qui a consisté à marcher sur l'eau, il y a eu un homme qui, comme Jésus, a marché lui aussi sur l'eau. Certes, ce n'était pas dans les mêmes proportions que Jésus. Certes, il n'a pas mis autant de temps sur l'eau que Jésus. Mais toujours est-il qu'un homme a réalisé l'exploit de marcher sur l'eau pendant quelques petits instants. Et cet homme, c'est Pierre. Mais la question qu'on peut se poser est de savoir comment se fait-il qu'un homme parmi les hommes ait pu marcher sur l'eau comme Jésus, le Fils de Dieu. Comment se fait-il que Pierre ait pu réaliser le même miracle que Jésus, même si ce ne fut que pendant un court instant? Par quel moyen Pierre a pu faire quelques pas sur l'eau? Le verset 29 de ce passage nous dit « Aussitôt, Pierre descendit du bateau et se mit à marcher sur l'eau. » Comment cela a-t-il pu être possible pour un homme? La première réponse facile qui vient à l'esprit, c'est de dire que Pierre a marché sur l'eau parce que Jésus lui a demandé de venir à lui. Il a marché sur l'eau parce que Jésus lui a dit « Viens ». C'est ce qu'il dit au verset 29. « Viens donc ». On peut donc supposer que si Jésus dit à Pierre de venir le rejoindre sur l'eau, il lui donnera aussi les moyens de le faire, la force, la puissance de marcher sur l'eau. Mais cette réponse, aussi vraie qu'elle puisse paraître, n'est pour autant pas suffisante. Puisqu'en lisant la suite du passage, on s'aperçoit que Pierre n'a pas été au bout de sa marche. À un moment donné, il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Alors on peut là aussi s'interroger. Car si c'est Jésus qui a donné le pouvoir à Pierre de marcher sur l'eau, comment se fait-il qu'au beau milieu de son exploit, il se mette subitement à s'enfoncer? Comment expliquer cela? Que s'est-il passé entre le moment où Pierre marchait sur l'eau et le moment où il s'enfonce? Car il y a bien eu deux moments distincts. Le moment où Pierre était sur l'eau, comme s'il dominait cette mer, comme s'il planait par-dessus cette mer, cette étendue d'eau. Et le moment où il s'enfonce dans cette eau, comme s'il subissait impuissamment les vagues qui le submergeaient. Il semble alors se dessiner ici un problème fondamental qui peut toucher chacun d'entre nous, chaque disciple de Christ que nous sommes. C'est le problème du rapport entre notre foi et les doutes qui parfois peuvent nous envahir et détruire ou diminuer cette foi. Oui, il y a un vrai paradoxe qui souvent jaillit dans notre vie chrétienne. Entre d'un côté la foi profonde que nous pouvons manifester en Jésus-Christ et qui nous permettrait d'avancer avec lui en eau trouble, en eau profonde, et de l'autre côté, les doutes et les peurs que l'ennemi vient semer dans nos cœurs pour nous voler notre foi et nous enfoncer en nous rendant inaptes à toute grande œuvre. Il s'agit du lien entre la foi en Jésus-Christ, notre Sauveur, cette foi qui nous maintient sur l'eau et le doute qui nous enfonce dans l'eau. Comment faire pour ne plus céder au vent du doute que l'ennemi vient imprimer dans un cœur rempli de foi? Telle est la question que chacun d'entre nous peut se poser dans sa vie spirituelle. Mais cette question met en lumière une nécessité et même une exigence pour tout homme qui s'unit à Christ. Cette exigence, c'est de placer notre confiance en Jésus-Christ en toutes circonstances. Si nous voulons réaliser des exploits dans notre vie, si nous voulons marcher sur les eaux, je vais dire les eaux troubles de notre vie, et passer de gloire en gloire, nous devons apprendre d'abord à placer toute notre confiance en Jésus-Christ et en lui seul. En réalité, cela nous permet de comprendre une chose fondamentale dans notre vie spirituelle. Et cette chose est la suivante. Dans ta vie, si tu marches par la foi en Jésus-Christ, tu marcheras sur l'eau. Mais si tu doutes, tu t'enfonceras. Si tu marches par la foi, tu marcheras sur l'eau. Ne vous inquiétez pas, je ne vous demande pas d'aller tout de suite à la sortie d'ici, à la mer, pour essayer de marcher sur l'eau. Certainement, vous vous enfoncerez. C'est symbolique et spirituel de marcher sur l'eau pour nous aujourd'hui. Et c'est ce que nous allons essayer de voir. Mon but ici n'est pas de vanter les exploits de Pierre, qui n'est qu'un homme parmi les hommes. Mon but est qu'à partir de cet exploit, fût-il infime de Pierre, on puisse comprendre un certain nombre de choses concernant la solidité de notre foi en Jésus. Je veux qu'on comprenne combien il est important de garder les yeux fixés sur Jésus-Christ pour pouvoir continuer à marcher sur l'eau avec lui. Mon but est de faire comprendre à quel point Jésus-Christ transfère à quiconque place sa confiance en lui une puissance et une capacité à réaliser des choses extraordinaires dans sa vie et aussi de pouvoir rester debout face aux tempêtes. Et pour atteindre ce but, chers frères et sœurs, je souhaite aborder avec vous trois points qui m'ont semblé essentiels pour nous aider à comprendre, je l'espère, le message de ce matin et d'en faire vraiment pour chacun d'entre nous une parole vivante dans nos vies. Le premier point consisterait à mettre en lumière cette réalité. C'est par la foi en Jésus-Christ que nous pouvons marcher sur les eaux, je veux dire sur les eaux troubles de nos vies. Le deuxième point nous conduira à l'idée suivante. Quand nous sommes en eaux troubles, Jésus ne vient pas comme un fantôme qui vient aggraver notre panique, mais il vient comme un père pour nous rassurer et pour nous dire « N'ayez pas peur, c'est moi ». Et le troisième point consistera à comprendre cette idée qui est « Quand Jésus nous presse ». Ici, le passage que nous venons de lire dit « Jésus les pressa ». Dans d'autres versions, c'est marqué « Jésus les obligea ». Il a obligé, il a pressé ses disciples à aller de l'autre côté. Et quand Jésus nous presse et nous oblige à embarquer dans une direction, ce n'est pas pour nous piéger, mais c'est pour qu'à travers ces chemins qui sont parfois difficiles, il se glorifie en venant nous porter secours. C'est par nos chemins difficiles que Jésus vient se révéler à nous dans sa splendeur. C'est sur nos chemins difficiles que Jésus vient nous révéler sa divinité. Alors le premier enseignement que nous pouvons tirer de ce passage consiste à dire que c'est par la foi en Jésus-Christ que nous pouvons marcher sur les eaux de nos vies, sur les eaux troubles de nos vies. Et pour mieux comprendre cette idée, il est important de ressortir ici les trois choses qui, pour moi, ont rendu possible le miracle de Pierre. Et nous verrons comment Jésus, à travers cela, s'est révélé à Pierre et à ses disciples de manière encore plus extraordinaire. Dieu utilise parfois les hommes pour nous parler. La première chose qui a rendu possible le miracle de Pierre, c'est sa foi. Oui, effectivement, cette foi a semblé petite à la fin. Jésus lui dit d'ailleurs au verset 31, « Ta foi est bien petite. » Mais on peut cependant penser que cette foi de Pierre a été conséquente à un moment donné, du moins au début. Car s'il a pu marcher sur l'eau quelques instants, c'est bien parce qu'en ce moment-là précis, il avait la foi en Jésus-Christ. Et tant que Pierre avait la foi, il marchait sur l'eau. Tant qu'il avait la foi, ça marchait pour lui. La deuxième chose qui a rendu possible cet exploit de Pierre, c'est qu'il a gardé le cap sur Jésus-Christ. Pierre a gardé les yeux fixés sur Jésus et il marchait en direction de Jésus dans un premier temps. Il ne voyait et ne regardait que Jésus et rien d'autre autour de lui. Le verset 29 nous dit « Aussitôt, Pierre descendit du bateau et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. » Et l'expression « en direction de Jésus » est d'une importance capitale ici. Parce que c'est cela qui tient tout. Il a marché sur l'eau parce qu'il marchait où ? En direction de Jésus. Et tant que Pierre gardait les yeux fixés sur Jésus, tant qu'il marchait en direction de Jésus, tant qu'il gardait le cap sur Jésus, ça marchait pour lui. Il marchait sur l'eau. Et cela nous apprend quoi à nous, pour nous aujourd'hui ? Si nous voulons que ça marche pour nous aujourd'hui, si nous voulons marcher sur l'eau, c'est-à-dire sur les eaux troubles de nos vies, nous devons garder les yeux fixés sur Jésus et marcher dans sa direction. Et c'est quoi marcher sur les eaux pour nous ? C'est quoi les eaux troubles pour nous aujourd'hui ? Les eaux troubles, c'est une expression qui décrit les difficultés, les obstacles, voire les souffrances par lesquelles nous passons dans notre existence. Les eaux troubles sont la caractéristique même de la condition humaine, faite depuis la chute du Jardin d'Éden, de souffrances, de difficultés, d'obstacles, de toutes sortes, parfois de quelques joies aussi. Mais la condition humaine, c'est celle-là. Mais la parole veut nous faire comprendre ce matin que si nous marchons en direction de Jésus, si nous marchons par la foi en Jésus-Christ, il est possible que nous marchions sur les eaux troubles de nos vies. Et marcher sur l'eau pour nous, aujourd'hui, cela signifie se mettre à la hauteur de nos problèmes, se mettre même au-dessus de nos problèmes, de nos difficultés, de nos soucis, de nos obstacles de tous les jours. Marcher sur l'eau pour nous aujourd'hui, avec Jésus-Christ, c'est de ne pas se laisser abattre ni enfoncer par les soucis du quotidien, parce que nous avons le cap sur Jésus. Et ceci n'est possible que si, justement, nous marchons avec lui, nous marchons avec Jésus. Les Gilets jaunes, aujourd'hui, expriment le fait qu'ils passent par des eaux troubles. C'est cela, c'est une vraie détresse. Ils sont en recherche de repères et de direction. Ils ne veulent plus s'enfoncer dans ces eaux. Et cette direction, nous pouvons la trouver en Jésus-Christ. Et cette force qui nous permet de maintenir la tête hors de l'eau, nous la trouverons en Jésus-Christ. La troisième chose qui a permis à Pierre de marcher sur l'eau est toujours en lien avec Jésus. C'est que Pierre ne s'est pas laissé distraire par l'environnement ni par le contexte. Il a gardé toute sa concentration sur Jésus-Christ. Et tant qu'il ne remarquait pas le vent ni le contexte autour de lui, il marchait sur l'eau. Rester concentré sur Jésus-Christ et ne pas se laisser distraire par le vent qui souffle, voilà la recette. Alors cela nous amène à une première conclusion. C'est par la foi en Jésus que nous pouvons réaliser des exploits. C'est par la foi, les yeux fixés sur Christ et concentrés sur lui, que nous pouvons marcher sur l'eau, c'est-à-dire prendre le dessus sur nos problèmes, sur nos ennemis et sur nos difficultés. Et le psaume 91 nous confirme cette réalité, versets 11 à 13. « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spic, tu fouleras le lionceau et le dragon. » Oui, si nous restons fixés sur Jésus, alors oui, nous marcherons sur nos ennemis et nos géants. Et le psaume 60, d'ajouter au verset 12, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Mais alors, pourquoi Pierre s'est enfoncé? Qu'est-ce qui a mis fin à cet exploit qu'il était en train de réaliser? Il est important aussi de voir ce qui a pu subitement interrompre l'exploit de Pierre et qui l'a empêché d'aller jusqu'à Jésus. Cela nous permettra de voir des choses à ne pas faire si nous voulons aller jusqu'à Christ. Trois choses ont mis fin à l'exploit de Pierre. Trois choses l'ont conduit à s'enfoncer dans l'eau. Et ces trois choses sont la peur, le doute et la déconcentration. Une fois que Pierre s'est détourné de Jésus, une fois que son regard s'est détourné de Christ, une fois qu'il a regardé les circonstances et le contexte qui régnait autour de lui, il s'est enfoncé dans l'eau. Le verset 30 nous dit « Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» C'est parce que Pierre a remarqué le vent qu'il a pris peur, qu'il s'est enfoncé. Tant qu'il était concentré sur Jésus, il ne voyait pas la force du vent et par conséquent ne pouvait pas avoir peur. Mais dès qu'il s'est détourné de sa direction, les conséquences ont été dramatiques et immédiates. Il a vu la force du vent, la peur l'a envahi et il s'est enfoncé. Trop souvent, nous prenons peur et nous nous enfonçons dans nos difficultés. Quand nous cessons de regarder à Christ, pour ne plus voir que la taille des montagnes qui se dressent devant nous, la taille de notre découvert en banque nous fait peur parce que nous ne voyons pas que Jésus pourvoit à nos besoins. La force de notre maladie nous fait peur parce que nous ne voyons plus que c'est Jésus qui nous guérit. Ne regardons pas la taille ni la force de nos difficultés, mais regardons les solutions. Et la solution, c'est Christ. Jésus dit à Pierre aussi, au verset 31, « Ta foi est bien petite. Pourquoi as-tu douté ?» C'est la question qu'il lui pose. « Pourquoi as-tu douté ?» C'est dommage, on a envie de dire. N'eût été le doute, mais tu allais jusqu'au bout et tu me retrouvais en plein milieu de la mer. Il lui dit, n'eût été le doute qui t'a envahi, Pierre, tu aurais pu aller jusqu'au bout de ton exploit. Et tu allais pouvoir me retrouver ici, en pleine mer. Oui, ça nous parle. Le doute peut créer des dégâts terribles dans nos vies. Dans nos vies de tous les jours, mais dans notre vie spirituelle aussi. Si tu doutes, tu auras du mal à rejoindre Jésus. Si tu doutes, tu auras du mal à aller jusqu'au bout, à le retrouver là où il t'attend. Oui, si tu doutes, tu auras du mal à avancer dans ton parcours spirituel. Ne doutons pas. Oui, parce que notre chemin de foi est un parcours en eau, pas toujours tranquille. Notre chemin de foi est un parcours en eau trouble. Il y a des obstacles, il y a des embûches. Et s'il y a le moindre doute sur ce chemin-là, alors il sera difficile d'aller jusqu'au bout. Il te sera difficile d'aller rejoindre Jésus. Jésus lui a dit, viens, viens donc, viens me rejoindre. Et il a douté. Et l'exploit s'est arrêté. Et n'oublions pas que celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitées et soulevées par le vent. C'est ce que Jacques nous dit au chapitre 1, verset 6. Pierre et les disciples ont douté et ils ont été agités et secoués par les vagues de la mer et par le vent. Mais alors, dans ces conditions de tempête, dans ces conditions terribles où ils affrontent la tempête, que peut faire Jésus? Qu'a pu faire Jésus? Et cela nous conduit au deuxième point, au deuxième enseignement de notre message. Quand nous sommes en eau trouble, Jésus vient non comme un fantôme, qui vient aggraver notre peur, notre panique. Mais il vient, il apparaît, il surgit dans nos difficultés, dans nos eaux troubles, comme un père qui vient nous rassurer et calmer nos peurs. Qu'est-ce qu'il dit ici ? N'ayez pas peur, c'est moi. Rassurez-vous. N'ayez pas peur, c'est moi. La parole nous dit au verset 26, « Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. C'est un fantôme, dirent-ils. Ils se mirent à pousser des cris de frayeur. » Les disciples ont pris Jésus pour un fantôme qui vient encore accentuer leur peur alors qu'ils sont déjà en difficulté. Mais ils se sont trompés. Nous avons parfois le sentiment que Christ joue un rôle fantomatique dans nos vies, c'est-à-dire insignifiant, pratiquement invisible. Et parfois même, nous avons le sentiment qu'il nous fait peur. Il n'est pas là. Beaucoup de gens, encore aujourd'hui, ont peur de venir à Christ. Beaucoup pensent encore qu'il n'a jamais existé. Faites un sondage. Faites un sondage en route pour demander aux gens, qui est Jésus pour vous ? On sera surpris des réponses. Oui, beaucoup pensent qu'il n'a aucune influence dans leur vie, sinon de leur faire peur. Et ils font passer les chrétiens pour des gens bizarres, pour des gens qu'il ne faut pas fréquenter. Non seulement Christ n'est pas un fantôme, c'est-à-dire une entité invisible, mais en plus, quand il apparaît dans nos vies, c'est pour nous rassurer face à nos difficultés. C'est ce que nous confirme le verset 27 d'ailleurs. Il dit, « Mais Jésus leur parla aussitôt, voyant leur panique, Jésus leur parla aussitôt. Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Quand Jésus dit cela, comment ne pas être rassuré ? Je me rappelle, j'étais enfant au Cameroun, on avait parfois l'habitude d'aller au champ. Et alors dans les villages africains, il y a toujours des anecdotes, des histoires où on traite un papy de sorcier, un oncle qui est méchant, on dit qu'il est possédé par un esprit. Et du coup, nous, les enfants, on allait au champ. Et puis, alors ce monsieur-là, et à chaque fois qu'on le croisait, qu'on avait un petit bruit dans le champ, on se disait, « Ah, c'est un tel, c'est lui !» Et puis lui disait, « Mais ne vous inquiétez pas, c'est moi. Justement, parce que c'est toi, on partait. » Mais Jésus, lui, il dit, « Rassurez-vous, n'ayez pas peur, c'est moi. » Et là, on doit être rassuré. Jésus vient calmer nos peurs. Il nous demande juste de l'appeler. Et il nous tendra la main, comme ici à Pierre. Ésaïe, chapitre 43, verset 2, nous dit, « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal et tu ne seras pas brûlé. » Dieu nous rassure donc. Face à nos tempêtes, il nous assure de sa présence lorsque nous sommes dans nos troubles. Il nous dit, « Sois donc sans crainte, car je suis avec toi. » Ésaïe 43, verset 5. Alors cependant, pourquoi Jésus, et c'est la question qu'on peut se poser, pourquoi Jésus a pressé à obliger ses disciples à partir sans lui ? Pourquoi les a-t-il obligés à prendre cette direction dont ils savaient qu'elle était pourtant dangereuse ? Il faut rappeler que la scène se passe sur le lac de Tibériade, encore appelé aussi la mer de Galilée, cette scène. Et ce lac est situé à plus de 200 mètres en dessous du niveau de la mer, nous disent les géographes. Et il est réputé, ce lac, pour ses tempêtes violentes, dû aux différences de température qu'il peut y avoir entre le lac et les hauteurs environnantes. Donc, c'est un lac qui est vraiment réputé pour ces tempêtes-là. Et Jésus savait donc très bien qu'une tempête pouvait éclater pendant la traversée. Et pourtant, il a envoyé ses disciples. Mais que voulait-il qu'ils comprennent ? Et cela nous conduit au troisième point de ce passage. Quand Jésus nous presse, ou nous oblige à embarquer dans une direction, ce n'est pas pour nous piéger. mais c'est pour qu'à travers ce chemin, parfois difficile, il se glorifie en venant nous porter secours. Oui, et c'est par nos chemins difficiles que Jésus se révèle à nous dans sa splendeur. C'est sur nos chemins difficiles que Jésus nous révèle sa divinité. Alors soyons patients quand nous sommes en eau trouble. Ne paniquons pas. Attendons de voir ce que Dieu a à nous dire par nos difficultés, parce qu'il a quelque chose à nous dire. Les disciples ici auraient pu penser que Jésus, qui leur a pourtant demandé de prendre ce chemin, les a piégés. Un peu comme le peuple d'Israël, libéré de l'esclavage, il a pensé à un moment donné que Dieu les a piégés. Lorsqu'il s'est retrouvé affamé et assoiffé dans le désert, à tel point que ce peuple projetait de retourner en Égypte. Nous aussi, lorsque nous sommes plongés en pleine tempête, nous pensons parfois que Dieu n'est plus là. Mais ce passage nous apprend que ce n'est pas parce que Jésus nous envoie sur un chemin que celui-ci est forcément facile et paisible. Ça, c'est une vérité à connaître. Les chemins de Dieu peuvent être semés d'embûches. Nous devons donc nous y préparer. Ici, les disciples sont confrontés à la tempête sur le chemin que Christ leur a pourtant indiqué. De même, nos vies se heurtent à des difficultés de toutes sortes. Mais la seule assurance que nous avons, c'est celle de la présence de Jésus-Christ en toutes circonstances auprès de nous. D'autre part, quand Jésus nous envoie vers une direction, c'est parfois pour éprouver notre foi. Jésus, en envoyant ses disciples à l'autre bord, de l'autre côté, voulait voir à quel point ils pouvaient lui faire confiance. Or, une fois devant la tempête, ils ont paniqué, oubliant que ce Jésus qui les a envoyés sera le même qui viendra les sauver en cas de pépin. Et c'est d'ailleurs ce qu'il fait en venant calmer la tempête et en tendant la main à Pierre, qui s'écriait déjà « Seigneur, sauve-moi ». Oui, quand Jésus nous envoie vers une direction, c'est parfois pour éprouver notre foi. Et enfin, c'est sur nos chemins difficiles que Jésus nous révèle sa divinité. C'est sur ces chemins qu'il vient se glorifier en nous apportant son secours, son salut, son aide. Si Jésus nous envoie, c'est pour qu'au moment de la difficulté, sa puissance, sa force, sa divinité et sa grâce, dont nous bénéficierons en ce moment-là, apparaissent de manière encore plus éclatante aux yeux de tous. Voilà pourquoi le verset 33 nous dit ici, « Les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant, « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Voilà où il voulait en venir. Voilà où il voulait nous amener pour qu'on reconnaisse qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Oui, quand Jésus vient à notre secours, en nos troubles, c'est pour se glorifier. Et c'est pour qu'à notre tour, nous lui disions, comme ces hommes qui étaient dans le bateau, « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Alors aujourd'hui, Jésus te sauve, il te tient la main, il t'aide, il vient à ton secours. Sache lui dire, oui, je viens de voir, à travers ton aide, à travers ton secours, que tu es vraiment le Fils de Dieu. C'est ce qu'il nous demande. Voilà où il voulait en venir, qu'on reconnaisse sa divinité. Alors, c'est par la foi en Jésus que nous pouvons marcher sur les eaux troubles de nos vies. En ce que nous pouvons les surmonter et les dominer grâce à l'intervention de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Jésus, contrairement à ce qu'on peut penser parfois, n'est pas un fantôme qui nous effraie, mais un Père qui nous rassure au milieu de nos tempêtes. Et quand il nous oblige à prendre un chemin, ce n'est ni pour nous piéger, ni pour nous enfoncer, mais c'est pour nous fortifier et pour qu'à travers nos tempêtes, il se glorifie en faisant voir sa divinité. Voilà pourquoi nous devons, en toutes circonstances, placer notre confiance en Jésus-Christ, le seul susceptible de nous porter secours en pleine tempête. Et c'est aussi l'occasion de lui dire, « Seigneur, glorifie-toi à travers mes tempêtes. Seigneur, glorifie-toi à travers mes difficultés. Seigneur, viens montrer ta divinité dans mes souffrances. » Et il viendra se glorifier en nous portant secours. Marche par la foi en Jésus et tu marcheras sur l'eau. Amen.